Bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez Ça se discute, l'émission mensuelle des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Nous sommes ensemble pour 45 minutes de direct pour parler de scoutisme. Vous nous écoutez sur Fréquence Protestante ou sur le site de Fréquence Protestante. Vous pouvez réagir en direct avec nous sur les réseaux sociaux au hashtag Ça se discute. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook et on vous attend pour interagir sur l'émission. Et tout de suite, le sommaire de l'émission avec Thomas.
Bonsoir Roxane, bonsoir à tous. Le thème de notre émission de ce soir, comment bien manger, encore une question importante pour chaque scout d'entre nous. Et elle fait même l'objet d'un groupe de travail dans le mouvement au sein de la Coquelicot, la commission climat et convivialité. Pour en parler, nous recevons Anaïs, membre de l'équipe régionale Franche-Comté, Bourgogne. Nous retrouverons comme d'habitude le mot du mois, la chronique de Maxine, et on donnera quelques trucs et astuces pour devenir un petit cordon bleu responsable. On se quittera avec le loto et l'agenda du mouvement, et pour commencer, voici le mot du mois avec Roxane.
Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot.
Le mot du mois, c'est cette chronique où chaque mois, on vous présente un mot, son origine ou son sens. Et on lance un petit jeu dans le studio et sur les réseaux, être le premier à caser le mot pendant l'émission. Donc ce soir, on avait le choix pour les mots liés à la nourriture et à la cuisine. Tellement de choix qu'on a pris le rab. Ce petit mot si souvent utilisé par nos jeunes. Et il reste du rab ou je prendrais bien du rab. Mais c'est quoi ce rab alors? Chez nous, c'est à table qu'on l'entend. Quand le premier service a été servi, les jeunes y demandent « Est-ce qu'on peut avoir du rab? Est-ce qu'on peut en prendre un nouveau ?» Et ils demandent ce cher rab. Alors longtemps, je me suis demandé d'où venait ce mot. J'ai demandé à chaque fois que j'allais quelque part s'ils savaient d'où venait ce mot. Alors certains le voient comme un sigle derrière chaque lettre de ce mot, de trois lettres, un autre mot. Donc pour certains, le rab, c'est le reste à bouffer. Mais pas très sexy comme explication, pas impossible cela dit. Je vous laisse chercher d'autres mots que pourraient cacher ces trois lettres. Mais en fait, rab, c'est pas un sigle. C'est un diminutif. Et pour être plus précise, c'est une apocope du mot rabiot. Et le rabiot, c'était la soupe que les soldats laissaient quelquefois au fond de la gamelle. Et donc prendre le rabiot, c'était récupérer la soupe laissée par les autres. Voilà, maintenant cette expression, elle a passé les champs de guerre pour venir dans nos champs de blé. Mais c'était notre mot du mois. Si on arrive à caser le rab ce soir, c'est gagné.
Madame, un conseil, monsieur, mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé.
Petite musique de mise en bouche. Alors fin janvier, on vous avait parlé de l'assemblée générale qui avait eu lieu à Toulouse. Et lors des assemblées générales, c'est l'occasion de faire des propositions pour des projets dans lesquels les membres de l'association veulent s'engager. Ou non d'ailleurs. Alors lors de celle-ci, une proposition sur la question de bien manger a été soumise au vote et largement acceptée par les votants. C'est vrai que lors de nos événements, de nos camps, manger c'est hyper important. Et qui n'est jamais revenu d'un événement en disant « c'était top, mais la nourriture, pas terrible ». Ou à l'inverse, « c'était top, et en plus, on a bien mangé ». Alors c'est vrai que, je sais pas si c'est parce qu'on est français, mais on a un palais hypersensible sur cette question. Alors manger, c'est important, bien manger, c'est essentiel. Mais ça veut dire quoi, bien manger? Et ce soir, dans le studio, pour en parler avec nous, on reçoit Anaïs. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Et Thomas, tu peux nous relire la proposition qui a été votée à l'AG en janvier là.
Alors oui, alors ce texte, c'est l'Assemblée Générale demande que le mouvement relance une dynamique autour du bien manger afin de permettre à nos membres de prendre conscience des enjeux éducatifs et environnementaux liés à la nourriture et de disposer de ressources pour pouvoir proposer des menus sains, équilibrés et constituer autant que possible de produits locaux, bio et de saison. Sur des activités nationales, régionales, locales et les stages de formation, les menus proposés sont équilibrés et constitués autant que possible de produits locaux, bio et de saison.
Merci Thomas. Et si on commençait déjà par éclaircir le thème de l'émission, Anaïs, bien manger, ça veut dire quoi ?
Alors,
bien manger, avant tout, il y a la question du plaisir. C'est-à-dire que bien manger, avant de parler de produits bio, de saison, on va d'abord chercher à manger quelque chose qui est goûtu et qui fait du bien à l'âme et au corps. En second temps, on va parler bien sûr de quelque chose qui est bon pour la santé et qui du coup est équilibré en termes d'apport nutritif, donc protéines, féculents, bref, en tout cas glucides, etc. Toutes ces petites molécules qui font du bien au corps. Et enfin, bien manger, bah, y a la question de l'impact sur l'environnement. Donc finalement, comment est-ce que notre consommation de nourriture va impacter finalement nos ressources alimentaires? Donc là, pour bien manger, il faut réfléchir à quel impact aura notre nourriture sur l'environnement. Et bien manger, ça ne veut pas dire manger énormément.
Et concrètement, comment on peut mettre en place cette idée de bien manger en camp sur un événement?
Alors, pour se faire plaisir et bien manger sur un événement, le mieux quand même, c'est d'anticiper un peu ses recettes. Parce qu'en général, les très bons plats qu'on voit à la télé et tout, ils sont quand même un peu complexes et vaut mieux anticiper un peu les choses. Du coup, préparer des recettes, c'est pas mal. Ensuite, y a plein d'outils en fait qui existent déjà dans notre mouvement, qui nous permettent d'avoir des ressources pour pouvoir bien manger. Il y a les cahiers d'intendance, le guide bien manger en camp, etc. Et ça, faut pas hésiter à s'en servir parce que ça reste des outils qui sont tout à fait d'actualité et tout à fait pertinents. Et enfin, l'enjeu en fait pour bien manger, c'est d'avoir des bons produits de base. Et pour ça, on peut passer soit au minimum par des produits frais, et puis on peut aller chercher la qualité en allant chercher des produits chez des producteurs locaux qui les font de manière respectueuse et vertueuse.
Et justement, par rapport à ça, là, la place des fournisseurs qui est importante, c'est pas toujours évident pour des jeunes responsables de créer un contact et d'aller un peu plus loin que le supermarché du coin. Est-ce que toi, t'as un petit tuyau à donner à ces jeunes responsables qui ont déjà leur lieu de camp et qui maintenant peuvent penser à trouver un fournisseur local près de chez eux pour trouver de la nourriture?
Alors, ça dépend comment on va trouver son lieu de camp. En fait, je vais vraiment dire, trouver un fournisseur, c'est comme trouver un lieu de camp. Soit on a cherché en fait dans le réseau des lieux de camp où on avait déjà campé, et auquel cas, ce qui est cool, c'est d'appeler quelqu'un qui a déjà campé là et de voir déjà lui comment il a fait. Ça évite de refaire le travail deux fois. Si on a trouvé un lieu de camp, on est un primo arrivant, on a trouvé un nouveau lieu de camp, c'est la même démarche que pour trouver le lieu de camp, c'est-à-dire qu'il faut faire du téléphone, appeler les agriculteurs, donc on tape agriculteur sur un moteur de recherche de son choix. Et on essaie de trouver les agriculteurs avec qui on peut nouer un partenariat. Donc ça passe par du téléphone, voire par de la rencontre physique. Pour essayer un peu de défricher le terrain, ce qui peut être pas mal si on fait une visite de camp, c'est d'essayer d'aller voir les marchés locaux dans les villages alentours. En général, il y a des producteurs locaux qui y sont, et du coup, on peut directement nouer avec eux un contact plus facile. Et du coup, on voit plusieurs d'un coup, c'est assez rentable comme opération. Voire passer par les réseaux agricoles existants, type AMAP ou coopérative, où du coup, eux vont aussi avoir les contacts plus directs vers ces gens-là.
Ok. Et tu l'as dit aussi tout à l'heure, bien manger, c'est manger assez, ni trop peu, ni trop. Et le gaspillage, ça peut facilement arriver en camp. On peut pas conserver de la nourriture en camp. Alors comment on peut faire pour éviter ce gaspillage qui arrive en général en début de camp? Après, on essaye de réguler, mais comment on peut faire pour réguler dès le début?
Alors, en fait, l'enjeu, quand on est intendant sur un camp, c'est pas le tout de faire des menus, c'est de faire des listes avec des quantités. Parce que souvent, quand on cuisine pour soi, c'est facile de doser. Par contre, quand on cuisine pour 40, doser des pâtes ou doser du riz, on a tendance toujours à en vouloir en faire trop parce qu'on a peur du manque. Alors qu'en fait, c'est juste un calcul bête et méchant de multiplier la dose pour soi par le nombre de personnes. Du coup, en général, pour les premiers jours, peut-être pas pour tous les jours, mais au moins pour les 3-4 premiers jours, c'est pas mal que l'intendant il se fasse sa petite liste avant, avec vraiment les quantités précises, pour vraiment prendre la bonne dose. Et pour ça, dans le cahier d'intendance en fait qu'on a dans les pochettes de camp, il y a déjà les doses individuelles. Donc il n'y a plus qu'à prendre ces ratios-là, les multiplier, et normalement tout se passe bien.
Alors il y a une question importante autour de la viande. Sans forcément être végétarien, comment on peut adapter nos menus en réduisant cette consommation?
Alors l'enjeu de la viande, c'est pas de forcément s'en priver, c'est surtout de privilégier la qualité à la quantité. C'est-à-dire que souvent on a tendance à se dire quand on mange beaucoup de viande, on a bien mangé, ça va être très bon, alors que c'est pas forcément le cas. Des fois une viande mauvaise, elle a pas de goût et c'est pas forcément meilleur. Du coup, l'important en fait, c'est d'agrémenter la viande avec d'autres choses. Je vais m'expliquer concrètement par un exemple. C'est-à-dire que quand on fait des pâtes carbo, si on fait juste des pâtes avec des lardons et de la crème fraîche, forcément elle a beaucoup de lardons parce qu'il y a que ça à manger. Par contre, si on veut faire quelque chose d'un peu plus généreux sans mettre forcément beaucoup de viande, on va mettre des petits pois, des champignons, des oignons, et du coup on va pouvoir diminuer la dose de viande sans avoir l'impression d'en avoir moins dans l'assiette. Et du coup c'est ça l'enjeu en fait, c'est de compléter avec d'autres types de produits qui sont pas forcément de la viande.
Ok. Alors, il y a une initiative qui a été lancée il y a quelques temps maintenant par Paul McCartney, entre autres. C'est le Meat Free Monday sur l'idée de ne pas manger de viande le lundi. Donc, cette démarche, elle a pour objectif de réduire notre consommation en viande, qui est beaucoup trop grande aujourd'hui en France et dans beaucoup d'autres pays. Et ça pose des problèmes écologiques assez importants. Alors, leur démarche, c'est de bloquer le lundi, de dire on mange pas de viande le lundi, parce qu'ils ont réfléchi ensemble en fonction de différentes religions. Bon, le lundi touchait un peu moins de monde. Mais on peut aussi choisir un autre jour. Le tout, c'est de prendre petit à petit conscience qu'il faut réduire sa consommation de viande, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de viande par semaine, par jour. Et donc, on prend conscience à travers cette initiative en se disant aujourd'hui c'est lundi, je mange pas de viande, que on peut très bien s'en sortir en mangeant un peu moins de viande et en mangeant de la viande de meilleure qualité. Du coup, on va faire une petite pause musicale avec la chanson qui a été faite pour ce projet, Meat Free Monday. Vous êtes sur Ça se discute sur Fréquence Protestante 100.7 FM. On parle de nourriture, on parle de bien manger avec Anaïs ce soir et Thomas. Alors bien manger, c'est manger aussi de saison, on l'a lu plusieurs fois. On arrive au printemps, bientôt l'été. On va pouvoir manger quoi bientôt? Comment on fait pour savoir quels fruits, quels légumes, quels poissons sont de saison? Anaïs.
Alors, pour savoir ce qu'on a le droit de manger, parce qu'on peut manger qui est de saison et qu'on voilà qu'on n'a pas trop de ressources, en fait, faut aller sur le marché. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vais sur le marché, je regarde ce que les producteurs ont. Alors, pour savoir si c'est un producteur, faut regarder s'il a un petit panneau avec marqué producteur. Et s'il n'y a pas de panneau, vous regardez les mains. Si les mains sont terreuses, c'est que c'est un producteur. S'il a les mains très propres, vous pouvez avoir un peu des doutes. Et du coup, ça vous permet déjà d'avoir un peu une idée, parce que en fait, suivant les années, il y a des légumes qui poussent très bien, d'autres moins bien. Et du coup, c'est la meilleure manière de savoir si les légumes ils sont locaux et s'ils ont poussé à peu près sans trop d'aide artificielle. Après, il y a plein de ressources en fait. Il y a plein de calendriers qui existent sur Internet. Là, je vais pas vous mentir. Pour savoir ce qu'on a le droit de manger maintenant, bah, j'ai été voir sur mon anti-sèche sur mon ordinateur. Et ça permet d'avoir des ressources relativement fiables. Après, le problème du printemps, c'est qu'en fait, c'est là où tout vous pousse. Et du coup, à manger, il y a pas grand-chose. Vraiment. En fait, vous pouvez manger des radis, des laitues. Après, il y a plein de légumes, en fait, qui se gardent dans le temps. Donc, il y a les oignons, les carottes, les patates. Ça, vous pouvez vous lâcher toute l'année. Il y a pas de problème. Et après, en avançant un tout petit peu vers juin, là, vous pourrez avoir des aubergines, ce genre de choses, des trucs un peu plus gourmands. Et après, l'été, en fait, le truc pour savoir ce qui pousse l'été, c'est que c'est tous les légumes qui ont des pépins et des jus. Du jus, en fait. Donc la courgette, les tomates, les concombres, tout ça, ça pousse plutôt l'été. Et tous les légumes qui sont ce qu'on appelle... qui sont pleins, en fait, qui sont comme des raves, donc le céleri, la patate, tout ça, bah, vous allez avoir plutôt l'hiver, quoi. C'est un peu la technique, mais après, ça marche pas à tous les coups. Et donc surtout, bah, allez voir les ressources, ça sera beaucoup plus simple.
Alors on parle de bien manger. Est-ce que on peut adapter ça sur n'importe quel camp, à savoir en termes de budget? Est-ce que bien manger, ça coûte plus cher?
Alors, bien manger, c'est un engagement, hein, clairement. On peut faire de la boîte, on peut faire de la conserve, des choses comme ça, et on peut manger pour 2 euros par jour par personne, et effectivement, du coup, on a plus d'argent pour faire autre chose. Ok, ça c'est un fait, hein. Après, si on veut éduquer les gens à être écolo, à savoir respecter leur corps, à savoir protéger la nature, etc., ce qui fait quand même un peu partie de notre projet éducatif, faut se le dire, eh ben, en fait, on doit faire ça, comme on va mettre en place des installations, comme on va les faire dormir sous tente, tout ça, ça fait partie de notre projet, et on se pose pas la question de est-ce qu'on va acheter des tentes, ou finalement, est-ce qu'on les ferait pas dormir en plein air, parce que ça coûte moins cher, quoi. À un moment donné, c'est la même logique. Alors, est-ce que ça coûte vraiment plus cher de manger, entre guillemets, en conventionnel ou en faisant plus attention? Eh ben, pas forcément. En fait, l'enjeu, c'est de réduire tout ce qui coûte cher, c'est-à-dire, en gros, la viande et les produits lactés. Donc, faut vraiment aller se lâcher sur tout ce qui est légumes et légumineuses pour pouvoir un peu réduire ces coûts-là. Et quand on achète de la viande en bio ou en local, eh ben, du coup, ça compense et qu'on puisse avoir des produits qui sont un tout petit peu de meilleure qualité, un tout petit peu plus chers. Mais comme on en mange un petit peu moins sur toute la durée, on s'en sort avec un prix de camp qui est équivalent. Pour vous donner un exemple, pouvoir camper cet été en mangeant uniquement local, donc pas bio, je vous le conseille, mais local, on s'est retrouvé avec un prix de journée qui était entre 5 et 6 euros par personne.
Est-ce qu'il y a un prix qui est préconisé justement pour chaque camp sur un prix par jour par personne en termes de prix d'intendance?
Alors en fait, ça dépend des régions. Moi, j'ai eu la chance d'être dans plusieurs régions. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir des discours assez différents. En tout cas, quand j'étais dans la région Far West, pour ne pas les citer, ils étaient très, très vigilants à ça. Et ils nous disaient, voilà, si vous êtes à moins de 5,50 € par jour par personne, vous n'allez pas vraiment vous faire très plaisir. Donc moi, je m'étais dit, oh, de toute façon, je m'en fiche, je fais comme je veux, machin. Et ben, grosse erreur, mon premier camp, ça a été une catastrophe culinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai qualifié ça de gastronomie à la cruel, c'était vraiment affreux. Et du coup, après, j'ai décidé de monter un peu en gamme. Et du coup, entre 5,50 € et 6 €, a priori, vous pouvez vous faire plaisir et manger bien et frais et voilà, équilibré sans trop de problèmes.
Ok, merci. On continue à parler de bien manger, mais on va laisser la parole à notre jeune chroniqueuse Maxine, qui n'est actuellement pas là dans le studio parce qu'elle est en train de bien manger avec ses grands-parents, mais elle nous a quand même laissé son avis et donc on l'écoute.
Je suis jeune, j'ai 8 ans et j'ai peur sans ma maman. Je sais rien faire, je pleure tout le temps et je me demande ce qui m'attend. Y'a un monsieur qui me regarde du haut de ses 19 ans, qui me dit t'inquiète pas, tu vas kiffer pour longtemps. Et il avait raison, le monsieur en chemise.
Pour ce qui est de la nourriture écologique, les hommes deviennent de plus en plus forts pour ça. Beaucoup de villes et de villages dans le monde ont installé des systèmes qui permettent aux habitants de cultiver un jardin et de récolter ensuite les fruits et légumes. Et de plus en plus de mairies incitent la population à manger équilibré. Manger sainement et équilibré est un acte que tout le monde peut faire. Il suffit juste de faire varier les aliments. On peut tout à fait manger des crêpes bien sucrées le matin et le soir une soupe ou une ratatouille. Il faut juste pas manger tout le temps la même chose. Même manger que des pommes ou des tomates est mauvais pour la santé. En clair, manger équilibré ne signifie pas manger que des fruits et des légumes. Il faut manger de tout car notre corps a besoin de nutriments se trouvant dans divers aliments comme la viande ou le poisson. Évidemment que bien manger est indispensable pour rester en bonne santé, mais est-ce que vous trouvez vraiment que notre société nous aide à manger sainement? Imaginez, juste 2 secondes, vous décidez de faire attention à ce que vous mangez. Pour cela, vous vous rendez chez Naturalia ou dans un autre magasin bio. Et vous achetez toutes ces choses aux ingrédients inconnus comme des chips de cale, crues saveur cheddar, ou des aliments que vous ne saviez même pas comestibles, comme des kombus déshydratés en feuilles. Vous décidez ensuite d'acheter des infusions aux plantes venues d'un autre monde, ou vous optez pour quelque chose de plus simple, comme un thé aux algues pour accompagner votre kombu. Vous vous félicitez pour votre bon sens et vous êtes fiers de vous, car ce que vous mangez est bon pour vous et pour la planète. Mais soudain, une pub pour les nouvelles crèmes glacées Häagen-Dazs apparaît, suivie d'une autre pub pour les biscuits Oreo. Vous résistez, vous tentez de résister, mais votre gourmandise prend le dessus et vous force à acheter toutes les cochonneries que vous vous êtes promis de ne plus acheter. Vous maudissez cette pub de marketing qui marche beaucoup trop bien. Et puis vous vous dites que finalement, essayer de manger bio, c'est pas trop votre truc.
Et Maxine qui souligne le fait que c'est pas toujours facile d'essayer de bien manger, de manger local face à toute la pub. Merci Maxine pour cette vision. On fait une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à parler nourriture, d'attitude responsable et surtout, on va vous donner quelques trucs et astuces pour cuisiner en camp ou lors d'événements pour que vous soyez pas obligé de faire une jardinière de légumes en boîte, ce qui rendrait très triste Old Olaf.
La jardinière de légumes, c'est un peu décevant quand même. Quand on nous la sert qu'elle fume, tout le monde a de la peine. On se dit que ça ne doit pas être cool d'être du tiers-monde ou de vivre pendant la guerre. Ça rend humble une seconde. La jardinière de légumes, on en a tous déjà pris. Personne ne s'y accoutume, tant pis. C'est un peu comme voyager vers le pays du chômage, et ce juste avec le goût, mais ça fait cher le voyage. Pourtant les carottes c'est bon, les petits pois passent quand t'as un rhume, mais la jardinière là non, c'est du cadavre de légumes. Les légumes en jardinière, on en a tous déjà pris. De force il faut bien l'admettre aussi. Je ne comprends pas pourquoi des gens prennent sur leur temps pour en cuisiner. Quelquefois ils sont certainement méchants, et puis c'est tellement plus simple et avouons-le, ça va plus vite de faire de vrais légumes comme des frites, des pâtes ou des frites. Comme personne n'en prend, elle revient à tous les repas, et ça peut durer longtemps, en soupe ou toujours comme ça. Certains tombent en dépression, d'autres vont vomir en fraude, car ce n'est ni plus au fond que de la macédoine chaude. La jardinière de légumes, c'est un peu comme les oignons, ça fait pleurer sans aucune raison. Les légumes en jardinière, ne m'en sers plus, c'est un crime. C'est ton choix à toi de faire ce régime. Et c'est vraiment dégueulasse.
Vous êtes toujours sur l'émission Ça se discute sur Fréquence Protestante 100.7 FM. Ce soir, nous recevons Anaïs pour nous parler de nourriture, de bien manger. Nous allons maintenant parler de petites solutions pour appliquer cette responsabilité du bien manger lors d'événements scouts, puisque cet été, il va y avoir plus d'une centaine de camps, ce qui nous ramène environ à 10 150 repas à préparer pour nourrir tout ce beau petit monde qui part. Alors, il en faut des idées et des astuces. Donc Anaïs, toi, tu as déjà été responsable, tu as déjà campé, donc tu vas pouvoir nous fournir un petit peu tes astuces.
Mais du coup aussi, lorsque l'on concocte un repas, les aliments sont indispensables, mais également notre espace de cuisine. C'est quoi les trucs et astuces pour avoir un lieu de cuisine efficace, propre et sain ?
Grosse question, surtout en camp scout. Alors, l'enjeu avant tout, c'est d'avoir une cuisine qui soit pratique, où du coup on cuisine efficacement. Donc pour ça, il faut respecter la marche en avant. Alors c'est un truc normalement qu'on entend parler, dont on entend parler quand on fait les stages de formation. L'idée, c'est qu'en fait, l'aliment, il passe par différentes étapes, c'est-à-dire qu'on a les stocks, ensuite il y a l'endroit où on va découper, préparer, éplucher. Ensuite, il y a un endroit où on va cuire, l'endroit où on va mettre dans les plats pour servir, et ensuite l'endroit où on va servir à table. Et enfin, il y aura donc l'endroit où on fait la vaisselle. D'accord? Et tous ces lieux-là, en fait, l'enjeu, c'est de les avoir en vrai sur les lieux de camp. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'endroit où on a le stock, l'endroit où on découpe et on fait que ça, l'endroit où on cuit et on fait que ça, l'endroit où on met dans les plats et on ne fait que ça, l'endroit où on mange, etc., etc. Et c'est vraiment cet enjeu-là, parce que sinon, tous ces endroits où si on mélange tout ça, c'est-à-dire que on coupe un peu sur le coin de la table à feu, ou on coupe sur la table d'unité, on revient pour cuire, on repart, etc. Bah on a multiplié les chances que la planche à découper se renverse avec toutes les petites idées dessus. Si on a un espace de cuisson qui n'est pas adapté, et ben ça met des années à cuire et du coup on mange trop cru ou trop cuit et c'est vraiment pas très agréable. Du coup, il y a vraiment cet enjeu-là. Après, le mieux, c'est d'avoir des endroits qui soient facilement lavables, notamment pour les endroits où on découpe, où on épluche, voire là où on met dans les plats. Pour ça, j'ai pas encore trouvé la solution miracle, c'est-à-dire que d'avoir des surfaces lavables avec que des matériaux qu'on a sur un camp scout, à savoir des redos ou des croûtes, je sais pas comment vous appelez ça, des grumes, des morceaux de bois, quoi. C'est une surface qui est ultra poreuse et donc du coup qui prend tous les jus, toutes les coulures. Et donc soit faut la poncer, la traiter avec de l'huile, machin, pour que ça soit le plus étanche possible. Soit si on a un peu plus fémard, on peut partir sur des matériaux qui sont artificiels, type mélaminé, pour pouvoir avoir quelque chose de lavable. Donc ça, vous les trouvez dans toutes les surfaces de bricolage, pour pas très cher, mais niveau point de vue écologique, c'est pas top.
Alors, l'été dernier, tu as campé aussi sur la question, t'as pris en compte la question du bien manger dans ton camp. Cet été, tu pars aussi en camp, t'es responsable alors d'une route Roverway, donc d'un camp Roverway, donc on en a aussi parlé, Roverway, dans cette émission. Et donc le projet Roverway, c'est de s'associer avec des partenaires et de mettre en place un projet. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet sur ton camp de cet été?
Alors, pour monter ce projet Roverway, il y a vraiment une démarche en fait qui s'est faite en conciliation en fait avec l'équipe de Rover dont je suis responsable cette année. Et on s'est mis en partenariat avec une association qui se situe en Ardèche, qui s'appelle Le Battleur, qui est une association qui produit en fait des conserves de légumes produits localement dans le respect des producteurs, de la nature, donc bien sûr c'est bio. Et il y a vraiment une démarche en fait d'avoir un circuit ultra court entre les lieux de production, le lieu de transformation, donc là où on met en conserve, et du coup la manière dont on distribue ces produits-là. Donc nous, avec les rovers sur cette route, on va aller à l'endroit où ils produisent les légumes, et on va en fait les aider, puisque l'Ardèche était un département assez complexe d'un point de vue de la topographie. Donc, c'est-à-dire que c'est des vallées très très pentues. Et du coup, on va faire des murs de soutènement en pierre sèche, et on va notamment aider en fait sur les terrasses vivrières, donc là où sur les lieux de production, pour désherber, pour recréer des tuteurs, pour récolter une partie des légumes. Enfin, il y a vraiment tout un enjeu autour de ça pour vraiment les soutenir dans leur démarche de produire localement leurs légumes, ce qui est vraiment un engagement très fort pour eux. Et qui n'est pas encore assez payant aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose qui est un engagement qui est assez dur d'un point de vue de l'investissement humain et du retour finalement sur l'investissement qu'ils peuvent avoir aujourd'hui.
Une petite question qu'on pourrait se poser, je pense, pour beaucoup d'animateurs. Est-ce que bien manger et acheter discount, c'est compatible?
Alors ça, c'est une grande question. Donc là, quand j'ai commencé comme responsable, pour moi, manger discount, c'était finalement ce que j'avais toujours vu au scout. Les marques Eco Plus, Carrefour Discount, tout ça, on connaît bien, le petit pouce vert, tout ça, et du coup, moi j'ai reproduit les schémas, c'est-à-dire que ça me paraissait normal, et même dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que moi dans la vie de tous les jours, quand j'avais 19 ans, 20 ans, donc pas très longtemps, hein, et ben que j'étais dans les magasins, je me disais, bah, voilà, je mange ça au scout, je vais manger ça pour moi. Faut bien se le dire, ces produits-là, ils sont pas très qualitatifs. Hein. On voit plein de reportages à la télé qui nous disent « Oui, non, mais c'est les mêmes chaînes, c'est la même chose dans les produits Carrefour et dans les produits Carrefour Discount. » Peut-être, sauf qu'en fait, il faut plutôt se dire que les produits Carrefour sont aussi mauvais que les produits Carrefour Discount, plutôt que se dire que les produits Carrefour Discount sont aussi bons que les produits Carrefour. C'est plutôt l'inverse, hein. C'est plutôt du bas de gamme. Du coup, pour moi aujourd'hui, avec ce que je défends en termes d'impact écologique, d'impact sur la santé, et ce qui me paraît cohérent par rapport à un projet éducatif, non, ce n'est pas compatible. Même si financièrement c'est très attractif, c'est pas compatible. Pourquoi ? Parce que ces produits sont pas bons, et qu'on éduque en fait les enfants à aller se fournir ces produits-là, qui ne sont pas respectueux de l'environnement, qui ne sont pas respectueux de leur corps et de leur santé, et qui leur permettent pas en fait d'avoir, pour moi, un rapport épanoui à la nourriture. Du coup, je réponds assez catégoriquement. Après, chacun fait ce qu'il veut de ça. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas compatible.
Merci pour cette réponse très tranchée, mais qui peut donner un avis éclairé pour tous les responsables. On va revenir sur un événement qui s'est produit alors, en 2011. On va remonter un petit peu une émission du groupe M6, Top Chef, que l'on connaît encore actuellement, a donné un challenge à ces jeunes cuisiniers de se rendre sur un camp scout et de cuisiner des plats avec des jeunes des scouts et guides de France à Jambeville, sur le Centre national de formation. Une émission a été consacrée entièrement à ça ça pouvait du coup mettre en situation la cuisine au feu de bois, de faire des plats comme ça en pleine nature. On va réécouter un extrait de cette émission pour se mettre dans l'ambiance.
La semaine prochaine dans Top Chef, les candidats devront aussi créer un barbecue d'exception pour un camp de scouts.
Et là je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce beans quoi?
Je m'attendais pas que ce soit aussi difficile que ça. Quoi.
Pas mal, t'as pas mal. Machine.
C'est génial. On y va. Allez,
je pense qu'on est des guerriers un peu. On lâche rien et c'est ça qui est bon.
Sauront-ils s'adapter à ces conditions extrêmes et satisfaire des jurés sans état d'âme?
Je vais me donner à 300% pour réussir. C'est pas maintenant qu'il faut que je perde.
Pourtant, la semaine prochaine, l'un des candidats n'aura plus sa place dans les cuisines de Top Chef. Qui verra son rêve se briser?
Alors, chez les scouts, on cuisine dans des conditions extrêmes. Alors, pas vraiment besoin d'être un chef étoilé pour servir des bons plats à nos jeunes scouts. Toi, Anaïs, ton plat préféré en camp, c'est quoi?
Alors, mon plat préféré en camp, pour moi qui maintenant dirige des camps, c'est un plat qui doit être à la fois bon et à la fois pas trop compliqué à faire parce qu'il arrive ponctuellement, hein, qu'on puisse être un peu à la bourre, et du coup avoir un plat pas compliqué, ça aide aussi pas mal les responsables. Du coup, mon plat de la débrouille, c'est les pâtes aubergine feta. Alors les pâtes, c'est pas très sexy, mais bon, on va quand même en parler. Du coup, l'enjeu, c'est juste de faire un plat qui soit végétarien, où on fait des pâtes, et en fait, on coupe ces petites aubergines en dés, on la fait revenir à la poêle, on coupe la feta en dés, on fait revenir ça à la poêle, on peut mettre un peu du thym, du poivre, du sel, ce qu'on veut. Et l'enjeu, c'est que la feta soit bien fondue pour faire une espèce de sauce comme ça qui va napper ensemble. On peut même l'allonger avec un peu de crème fraîche si on veut vraiment être gourmand. Et ensuite, on verse cette délicieuse sauce sur les pâtes. Et en général, ça fait fureur. Et les enfants mangent des aubergines, ce qui n'est pas toujours gagné, en fait, parce que c'est un légume qui a un goût particulier, mais ça se marie bien avec la feta. Et ça marche, testé et approuvé cet été.
Et justement, on connaît la réticence des légumes auprès des jeunes. Est-ce qu'il y a des moyens, justement, pour à la fois pratiquer les légumes dans ces plats, tout en gardant une variété et donner l'envie du goût aux légumes pour les jeunes?
Alors, le challenge, en fait, c'est déjà de varier énormément ce qu'on propose. C'est-à-dire que le même légume, faut pouvoir le présenter sous différentes formes. C'est-à-dire que, pour revenir à l'aubergine, ce fameux légume, on peut le faire poêler avec du coup de la crème. Après, on peut le faire en ratatouille. On peut le faire en brunoise avec d'autres types de légumes. On peut le faire en gazpacho si on veut. Enfin, on peut se lancer dans tout ce qu'on veut. L'intérêt, en fait, c'est de repartir sur les mêmes légumes de saison qui, en général, limitent un tout petit peu le champ et essayer de faire plusieurs types de cuisson ou plusieurs types de présentation pour pouvoir donner un aspect comme si on mangeait quelque chose de nouveau à chaque fois. Et après, en fait, l'enjeu, c'est comme n'importe quelle cuisine, c'est-à-dire que ce qui fait du bon dans la bouche et qu'on se dit « Ah, c'est vraiment délicieux, j'ai vraiment trop envie d'en remanger », en fait, c'est pas compliqué. C'est le gras, le sucre, le sel. Donc, les légumes, c'est pareil. Pour pouvoir en manger plein et en même temps que ça soit bon, faut pas hésiter à mettre un peu d'huile d'olive ou un peu de beurre. Faut pas hésiter à saler, à épicer, d'utiliser pas mal de choses qui vont intensifier le goût des légumes et qui, du coup, vont permettre d'en manger. Et puis, faut pas hésiter aussi à faire du sucré salé. C'est-à-dire qu'une poêlée de légumes avec une sauce aigre douce ou une sauce un peu caramélisée, ça va bien passer, alors que voilà, si on les fait juste comme ça à l'eau, ça peut paraître un peu fadasse.
Et la salade carotte-pomme est très bonne aussi. Alors on peut trouver plein de recettes sur le site de la Toile Scout, ils ont toute une catégorie pour ça et ça peut vraiment vous être utile. N'hésitez pas à les expérimenter et si vous les expérimentez, bah partagez-nous vos créations. Et est-ce que tu as un petit secret pour ceux qui sont pas du tout à l'aise avec la préparation en cuisine ou qui pensent que c'est tout un monde et qu'en fait pas tant que ça?
Alors j'ai pas, ce qui est un peu compliqué pour moi là, c'est que je suis pas vraiment passée par là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup cuisiné. Alors j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui cuisinait pas du tout, et ça tombe bien, j'ai un très bon ami qui aurait dû être là ce soir, qui s'appelle Pierre Georgi, qui n'aime pas trop le rab, mais qui a tendance à toujours sécher un peu le moment où il faut cuisiner. Et alors lui, quand il a besoin de cuisiner un truc, et comme c'est il a un peu du mal avec ça, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il suit la recette mot à mot en fait, lettre à lettre. Donc en fait, faut que vous trouviez quelqu'un dans votre entourage qui est bon. Vous lui dites, écoute, voilà, il faut que tu me fasses une recette. Écoute, mon ami, qui vous voulez, et vous faites la recette pied, voilà, lettre pas à pas, la lettre à la lettre, avec la bonne dose qu'il faut faire à chaque fois. Le vocabulaire de cuisine, vous le traduisez en langage courant, parce que sinon, ça peut faire des catastrophes. Et après, faut juste suivre pas à pas. Et surtout, l'enjeu, en fait, quand on cuisine, souvent, ce qu'on fait mal, c'est que on a tendance à cuisiner dans l'ordre dans lequel on va servir. C'est-à-dire qu'on commence par cuisiner l'entrée, puis le plat, puis le dessert. Or, ce qui est faux, c'est qu'en fait, faut cuisiner ce qui va prendre le plus de temps en premier. Et donc là, l'enjeu, c'est ça, en fait, quand on cuisine, c'est d'identifier ce qui va prendre le plus de temps, ce qui va cuire le plus longtemps, ce qui va mettre le plus de temps de découper, et commencer par ça, quitte à, du coup, après, servir autrement. Et voilà. Et après, c'est vraiment, y a pas plus d'autres secrets que ça. Après, j'ai envie de vous dire, allez vous former, allez à Top Chef, quoi, faites quelque chose. Non, après, y a pas d'autres secrets que ça, que si une recette, j'ai pas de recette miracle.
Alors on parle recette, justement, tenez-vous bien, on a retrouvé une recette originale de Baden-Powell autour du pain. Je vais vous donner un petit peu cette démarche qui est proposée dans un livre d'ailleurs autour de plein de recettes. Alors lorsqu'un scout prépare du pain, il doit commencer par retirer sa veste et l'étendre par terre, l'intérieur vers le haut. Alors pourquoi ? Afin qu'on ne voit pas les éventuels dégâts à l'extérieur lorsqu'il la portera ensuite. Puis il forme un tas de farine sur la veste et creuse un puits au centre dans lequel il verse de l'eau chaude. Ensuite, on mélange la pâte avec un ou deux pincées de sel, puis on ajoute de la levure et on pétrit jusqu'à ce qu'il obtienne une boule de pâte bien homogène. Ensuite, il se farine légèrement les mains, afin d'éviter que la pâte colle, il la tapote et forme un long pain ou en plusieurs petits morceaux. Il le dépose ensuite sur un grill au-dessus de braises chaudes ou écarte une partie des cendres sur un côté et sur le sol chaud pose son pain qu'il entoure de cendres chaudes et laisse cuire ainsi seuls les pains pas trop gros qui peuvent être ensuite cuits de cette manière.
Merci Thomas pour cette recette. Alors vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais subtilement, Anaïs a gagné le jeu en plaçant le mot rab. Bravo Anaïs. Moi j'ai une autre astuce aussi, si jamais vous faites cuire au feu de bois, c'est Ophélie qui nous a donné cette astuce, pour pas que votre gamelle devienne toute noire, eh ben vous la badigeonnez de savon noir avant, et comme ça elle sera pas toute grillée après avoir chauffé sur votre feu de bois. Merci en tout cas Anaïs, merci Thomas pour ces astuces et ces solutions. Finalement, on voit que pour bien manger, il faut pas être un grand chef étoilé. On peut peut-être se former, mais déjà prendre les conseils qu'on nous donne, c'est déjà pas mal. On espère que nos chers auditeurs pourront mettre en pratique quelques recettes et faire voyager les papilles de nos gamins cet été. Et avant de se quitter, on passe au loto de l'émission. Thomas, il va te poser des questions ou qui invitent une réponse quantitative en fait. Donc voilà, Thomas, je te laisse la parole.
Première question, on va commencer par combien de carottes pelées en camp ?
Carottes pelées, ça dépend sur quel camp. Alors cet été, nous étions 80. Je pense qu'on nous avons pelé au bas mot, je vais dire 223 carottes.
Combien de concours cuisine ?
Pour ma part, j'ai dû en faire 6.
De repas de servis au scout ?
Oh là là, vraiment beaucoup, notamment parce que j'ai fait beaucoup d'intendances. Je pense que ça se compte peut-être, je sais pas, entre 200 et 300, et je vais dire 307.
Combien de nouvelles recettes as-tu découvert lors de camps scout ou d'événements scout?
Ah, pas mal en fait. C'est une source d'inspiration, surtout qu'en général elles sont bien pratiques. Je pense que j'en ai découvert au moins 76.
Combien de caddies remplis dans les supermarchés?
Alors, pareil, cet été, quand à 80, en fait, ça a fait remplir beaucoup de caddies. Je pense que rien que cet été, on en a rempli... Allez, facilement 42.
Très bien, merci pour tes réponses.
Merci Anaïs, on passe à l'agenda du mouvement. Alors, pour l'agenda, depuis maintenant une semaine, les membres de l'équipe nationale ont pris place dans les nouveaux locaux 15 rue Cloque. En fait, ils ont repris leur appartement. Peut-être qu'il y aura une crémaillère, on vous tiendra informé si c'est le cas. Et si la question du bien manger et de l'attitude responsable vous a intéressé, vous serez sans doute intéressé par les assises de l'environnement qui auront lieu le 9 et 10 avril à Coutières, grosso modo entre Poitiers et Niort. Alors donc on vous invite, le sujet sera, peut-être pas d'accord, c'est pas entre Poitiers et Niort.
Oui c'est vaste, c'est ouais, les deux Sèvres quoi.
Tout le monde côté connaît Niort, hein, c'est sûr que c'est très connu en France.
Et le 10 avril aura également lieu l'Assemblée Générale du Scoutisme Français. N'oubliez pas aussi, si vous voulez camper cet été, que vous n'avez pas... Et si vous n'êtes pas encore formé, il y a encore des stages BAFA lors des vacances d'avril pour être formé au brevet d'animateur. Et puis le printemps, c'est aussi l'arrivée des grands coups. Donc là, on en a plein. Le 23 et le 24 avril, c'est le grand coup FCBPM.
Du 21 au 24 avril, 4 jours énormes pour jouer à la tech, faire des installations en France-Arthage et découvrir de nouvelles planètes.
En mai, les 5, 6, 7, ce sera celui des Yvelines et de IDFSE. Le 14, 15 et 16 mai, c'est celui de la région Far West et également celui de la région Provence. Et le 21, 22 mai, c'est le grand coup de Paris. Et enfin, le 28, 29 mai, celui de Val-de-Seine. Puis le 21, 22, il y a aussi un week-end de scoutisme protestant, si vous voulez vous former un petit peu au scoutisme protestant. Donc voilà, un agenda bien chargé, on sent que l'été arrive. L'émission touche maintenant à sa fin. Merci Anaïs d'être venue pour nous parler du bien manger. Merci Thomas pour l'émission et merci Maxine pour la chronique. On se retrouve en avril pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission, on vous retrouve sur les réseaux sociaux et vous nous retrouvez en ligne dès demain. Alors on se revoit le mois prochain et en attendant, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.